Allô, ah voilà. Bonsoir à tous. Allô, bonsoir à tous. Madame le ministre, messieurs les ministres, messieurs les élus, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'on a passé une semaine difficile. Notamment Philippe, que j'appelais tous les soirs, toutes les nuits. Mais les derniers pointages, alors j'ai perdu un pari, parce que moi je pensais qu'on ne dépasserait pas les 100, mais j'ai perdu le pari. Au dernier pointage, on est 450, enfin, selon Philippe. Pour vous accueillir, en tout cas on dit que les Français ne sont pas passionnés par la campagne européenne. La Chalon ce soir vous démontre le contraire. Alors c'est un meeting un peu spécial, un meeting prolongement du grand débat. Donc on va vous laisser la parole pendant 10 minutes, pas plus. Après, nos deux candidats vont prendre la parole. Et puis après, on prend les questions de la salle. Questions de la salle et réponses rapides, 2 minutes maximum. Vous savez comment ça se passe. Donc je vous laisse la parole, 10 minutes.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être ici ce soir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Raphaël Gauvin, merci Rémi Rebérotte, merci François Patria, merci Dominique Perben, quel plaisir de te retrouver Dominique. Merci aux organisateurs, je sais qu'ils s'inquiètent faire une réunion publique juste avant le week-end de Pâques. C'était un peu audacieux. Mais la campagne repart et bat son plein. Et on vient de passer une journée formidable avec Jérémy De Serles, qui évidemment est l'enfant du pays, avec qui on a sillonné la région depuis ce matin tôt, et avec Pascal Canfin. Nous avons absolument voulu avoir cette journée ici et pouvoir parler beaucoup agriculture et aussi de beaucoup d'autres sujets. J'ai compris, il faut que je parle 10 minutes, pas plus. Ça va être compliqué, je vais faire un effort pour me retenir, mais après on va surtout pouvoir échanger, écouter vos questions, vos remarques, y répondre. Je voudrais commencer en vous disant que ce soir, on est devant vous avec une liste de rassemblements, d'unions, à un moment où la France n'a jamais eu autant besoin de se réunir, de se rassembler. Cette liste Renaissance en est le témoignage. Nous avons rassemblé des hommes et des femmes qui ont en commun de vouloir porter haut et fort la voix de la France en Europe. Cette voix de la France, depuis 2 ans, elle est portée par Emmanuel Macron. Il a retrouvé pour nous le leadership dont la France avait besoin en Europe. Depuis 2 ans, il a d'abord fait campagne à la présidentielle comme un Européen convaincu et exigeant. C'est ça qui a fait que moi, je l'ai rejoint dans la campagne de la présidentielle. C'était le seul candidat qui n'avait pas l'Europe honteuse, mais qui avait l'Europe ambitieuse. Une Europe à laquelle il faut demander plus. C'est ce qui nous a réunis, les hommes et les femmes de la liste Renaissance, avec des parcours de vie, des parcours politiques ou des parcours de la société civile différents. Nous avions tous quelque chose d'autre dans notre vie et nous avons quand même tous décidé de sauter le pas, de venir nous présenter au suffrage de nos compatriotes parce qu'on est dans un moment historique, un moment où la France et l'Europe peuvent aller de l'avant, peuvent reprendre une forme de leadership sur le modèle de société que nous voulons, sur la transformation de ce modèle, ce que nous voulons garder, ce que nous voulons transformer, être aux avant-gardes de l'Europe de demain, d'une Europe de liberté, parce que nous savons ce que nous devons à l'Europe, la liberté, la paix depuis des décennies. Ne soyons pas des enfants gâtés, des héritiers passifs ou assoupis de ce que l'Europe nous a apporté, mais soyons aussi des Européens exigeants. Aujourd'hui, il y a des défis considérables devant nous qui ne savent pas ce que c'est qu'une frontière. Le changement climatique est le premier de ces défis. Il fait très beau aujourd'hui en Bourgogne. Il fait un petit peu trop beau. Et ça nous interpelle tous. C'est notre génération qui doit agir. Je ne sais pas combien d'entre vous ce soir ont des enfants. Levez la main, juste que je me fasse une. Ben voilà. Voilà. Moi, je suis en politique parce que j'ai 4 enfants. Et parce que je veux pouvoir les regarder en face. Que je veux, quand ils me demanderont qu'est-ce que j'ai essayé de faire, leur dire j'ai essayé d'agir et même j'y suis arrivée. Nous y sommes arrivés collectivement. Répondre à l'urgence climatique, ça suppose de se réunir entre agriculteurs et passionnés de l'environnement. Les agriculteurs sont les premiers passionnés de l'environnement. C'est eux qui préservent nos paysages, c'est eux qui préservent nos territoires, c'est eux qui savent mieux que personne ce que le changement climatique veut dire. On ne fera pas de transition écologique ni sans eux, ni contre eux. Et ce que cette liste offre de tout à fait unique, c'est la capacité de se rassembler, de dialoguer, de se comprendre et de construire ensemble. C'est ce qu'on a fait ce matin, depuis ce matin, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. Écouter, dialoguer, chercher des solutions qui ne laissent personne sur le bord du chemin. L'urgence aussi, c'est d'être à la pointe d'une révolution technologique qui doit ressembler à ce que nous voulons. Être à la hauteur des défis, mais à hauteur d'homme. La France, l'Europe ont été en pointe des grandes avancées technologiques depuis le 19e siècle. On a des grandes fiertés européennes, Airbus, Ariane. Ça date du 20e siècle. Alors là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait ? Manifestement, il s'est passé quelque chose, puisqu'aujourd'hui, le changement du monde se fait plus vite ailleurs qu'en Europe. Nous n'avons pas envie de rester au bord du chemin. Nous n'avons pas envie de voir un monde qui se transforme sans nous et qui peut-être ne nous ressemblerait plus d'ici tout simplement quelques années. Là aussi, il y a une urgence à agir, une urgence à avoir une politique industrielle commune, ce que n'a pas l'Europe depuis le début, et une politique industrielle qui nous permet de prendre à bras le corps, par exemple, l'intelligence artificielle. C'est un chantier formidable. On a tous les talents pour réussir ce défi en Europe. Ce qu'il faut, c'est se réunir. On ne le fera pas tout seul. La France, toute seule, aujourd'hui, n'est pas de taille à relever ces grands défis, en particulier face à la Chine, face aux États-Unis, face à des concurrents qui sont des continents. Et quand on pense aux géants du numérique, c'est la même chose. Dire que la France orgueilleuse ferait face à tout ça seule, c'est mentir aux Français, c'est mentir aux Européens. Les autres Européens le savent aussi. Un jour, j'étais dans une réunion au Portugal où un philosophe portugais disait « En Europe, il n'y a pas de grands et de petits pays. Il y a des petits pays et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. » En revanche, en Europe, on est 500 millions. Et 500 millions, ça change la donne. 500 millions attachés à un modèle de société, à un modèle de liberté, à un modèle de libre entreprise et un modèle de justice sociale en même temps. Ce modèle, il n'est pas archaïque, il est à la pointe de la modernité si on sait en être fier, le protéger, le promouvoir et se faire respecter. Ce que nous voulons, ce que nous vous proposons, c'est une France et une Europe qui se fassent respecter, qui soient en maîtrise de notre destin. Ça veut aussi dire être en maîtrise de notre sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Là aussi, est-ce que le terrorisme, c'est ce que c'est qu'une frontière ? Non. Est-ce qu'en fermant nos frontières, on sera à l'abri du terrorisme ? Non. En revanche, en coopérant ensemble, plus et plus fort qu'on le fait aujourd'hui, on sera mieux armés. Aujourd'hui, on en a besoin, avec des États-Unis qui sont devenus imprévisibles. Mon meilleur allié dans cette campagne s'appelle Donald Trump. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce dont il nous menace, doit nous donner envie de nous réunir encore plus que d'habitude. Il ne le sait pas, mais il est pro-européen. Et puis, face à une Russie qui, depuis un certain temps, a montré, en Crimée par exemple, qu'elle ne s'était pas remise de son affaiblissement et que pour elle, l'existence d'une Europe unie était quelque chose qui la dérangeait. Là encore, soit nous choisissons de dessiner notre destin ensemble, soit nous en laissons d'autres le dessiner à notre place et il ne nous ressemblera pas. Donc si nous voulons nous ressembler, il faut nous rassembler. Ce pays a connu depuis plusieurs semaines des ferments de division, parfois des ferments de violence. Je ne condamne pas, au contraire, l'expression du mécontentement. Cette expression, on la sentait venir. C'était même quelque chose qu'on avait attrapé, compris dans la campagne de la présidentielle. Et nous sommes le résultat de ce mécontentement. Emmanuel Macron a été élu par des Français qui voulaient que la France change. Il faut être à la hauteur de cette promesse. Nous pouvons, nous devons changer. Nous avons commencé à le faire. Nous devons reconstruire une unité nationale et la reconstruire aussi par l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a voulu un format grand débat ce soir ? C'est parce que l'une des sorties du grand débat, pas la seule, mais l'une de ces sorties passe par l'Union européenne. Nous voulons tous plus de justice sociale et plus de justice fiscale. Et nous savons aujourd'hui qu'une des grandes lacunes, ce n'est pas qu'il y a eu trop d'Europe en matière sociale ou en matière fiscale, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. C'est qu'aujourd'hui, un boulanger, un plombier de Saône-et-Loire va payer 14 points d'impôt de moins qu'un géant du numérique. Et ça n'est pas possible. De plus qu'un géant du numérique. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. On sait qu'en Europe, il y a de l'évasion fiscale et que ceux qui étaient les assis, les habitués de l'Europe, ceux qui aujourd'hui nous ont dit que l'Europe devait changer, quand ils avaient les manettes, ils n'ont rien fait contre ça. Ils n'ont rien fait pour changer les règles de la concurrence, pour faire qu'on ait demain les champions européens dont on a besoin pour peser sur le monde, mais dont on a besoin pour les emplois de nos enfants. Là encore, j'y reviens, l'Europe, elle est là pour construire notre avenir. Ceux qui disent qu'il faut sortir de l'Europe ou qu'il faut détricoter l'Europe nous promettent le déclin, nous promettent la résignation, nous promettent de sortir de l'histoire et de sortir du monde à un moment où nous avons tous les talents et toutes les valeurs pour être à la pointe de ce que le monde doit devenir. C'est ça que nous vous proposons. Nous sommes des Européens convaincus et des Européens exigeants. Nous ne sommes pas des Européens satisfaits. Moi, j'ai passé 2 ans au gouvernement comme ministre en charge des affaires européennes à conduire des changements, à conduire des réformes et à voir les limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas une masse de parlementaires européens qui arrivent au Parlement européen pour faire la différence, pour qu'il n'y ait pas une majorité qui puisse se construire sans nous, sans cette voix française engagée, déterminée, réunis autour de compétences qui sont là, de gens qui porteront ce qu'ils savent faire au Parlement européen, qui sont engagés à y travailler. Ça a l'air d'une banalité. Regardez ce que ceux qui sont aujourd'hui au Parlement européen, ceux qui sont les sortants, ont fait et surtout n'ont pas fait depuis des années. Nous arrivons à la fois avec l'humilité de notre nouveauté. Nous serons nouveaux au Parlement européen, mais nous espérons être différents. Nous espérons surtout vous ressembler. Je crois que cette liste, que j'ai un plaisir immense à conduire, elle a cette particularité. Ce soir, nous sommes 3 colistiers et nous sommes dorénavant 79 candidats. La liste complète sortira la semaine prochaine. Les 30 premiers sont connus. Les 30 premiers sillonnent le pays. Vous les connaissez, vous les voyez, vous les entendez. Regardez nos oppositions. Vous voyez des têtes d'affiche, souvent jeunes, avec un physique avenant. Vous ne voyez pas toujours la petite boutique des horreurs qui se tient derrière. C'est dire... C'est-à-dire des gens qui vont au Parlement européen pour se trouver une place, pas pour prendre leur part de la transformation de l'Europe. Nous, nous voulons prendre notre part. Alors on dit de nous, que, et on le dit en tordant le nez, que nous sommes des experts. Si ça veut dire que nous sommes des gens qui avons des convictions, qui avons tous un passé, qui avons tous un engagement et que nous nous engageons à travailler pour les Français... Et si c'est ça la différence, c'est ça que nous avons envie de vous offrir ce soir. Sans plus tarder, d'ailleurs, parce que les 10 minutes sont sans doute passées, oui, merci Raphaël, de 12 minutes, je vais passer la parole à Pascal Canfin, puis à Jérémy De Serles, et à tous ceux ensuite qui auront envie de la prendre. En tout cas, merci d'être là ce soir. N'hésitez pas à nous interpeller, n'hésitez pas à nous faire des propositions, à nous poser des questions. Nous sommes là pour porter les attentes des Français. Notre projet, nous l'avons construit en écoutant les Français pendant les consultations citoyennes sur l'Europe, pendant la Grande Marche sur l'Europe et pendant le grand débat. Ce projet, nous avons mis un peu de temps à le finaliser parce que ce sont des centaines de milliers de Français qui nous ont aidés à l'écrire. C'est aussi notre fierté. Nous n'avons pas écrit ça en chambre entre deux apparatchiks qui recopiaient le projet d'il y a 5 ans ou qui disaient le contraire, c'est arrivé aussi. C'est votre projet, c'est la France qu'on a envie de porter dans sa diversité, dans sa beauté. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en dehors de France. Jamais je n'ai autant aimé mon pays et jamais je n'ai autant cru à l'idéal européen que quand je le voyais de l'extérieur de l'Europe. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes rassemblés. À toi.
Bonsoir à toutes et à tous. Moi, qu'est-ce qui m'a fait venir sur cette liste ? C'est parce que je suis du France, comme on dit aujourd'hui. Ma région d'origine, c'est le Pas-de-Calais, c'est même plus précisément le bassin minier du Pas-de-Calais, près d'une ville que vous connaissez tous maintenant, qui s'appelle Hénin-Beaumont. Et je ne peux pas me résigner à ce que, de nouveau en 2019, le premier parti que la France envoie à Bruxelles et à Strasbourg sera national. Je ne peux pas me résigner au fait que l'image que l'on envoie, c'est d'abord que la France serait représentée. Je prends un autre micro, il faut que je tienne comme ça, c'est ça ? Comme ça, voilà. Comme ça, on va dire un cornet glace. Je ne peux pas me résigner à ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour la France, en termes d'image, en termes d'influence, puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où le premier groupe qui représente la France aujourd'hui au Parlement européen, c'est le Front National, ben ça veut dire que son influence est nulle, puisqu'il est dans l'opposition permanente, qu'il vote contre tout, quelle que soit la directive sur le terrorisme, sur les travailleurs détachés, sur autre chose. Et résultat des courses, l'influence française est extrêmement faible. Ça veut dire qu'on ne pèse plus suffisamment en Europe aujourd'hui. Et la seule façon de peser en Europe aujourd'hui et demain, c'est justement de faire en sorte que le 26 mai, au soir, la première liste qui représente la France à Bruxelles et à Strasbourg, ce ne soit pas celle du Front National, ce soit celle de la renaissance de l'Europe. Pourquoi ? Parce que nous serons au centre du jeu du Parlement européen. On va former, on aura l'occasion peut-être de répondre à vos questions, on va former un groupe central au Parlement européen sans lequel aucune coalition ne sera possible. Et donc on va passer, si nous sommes les premiers, et j'espère que nous serons non seulement les premiers, mais bien devant le Front National, alors on passera d'une situation où la France a perdu son influence à une situation où la France redevient centrale au Parlement européen. Et ça, évidemment, ça changera tout. Ça changera tout sur notre capacité à peser sur les différents dossiers que nous portons. Et parmi les dossiers que l'on porte, on va y répondre ce soir, je vais peut-être en dire, citer quelques-uns. Le premier, bien évidemment, et c'est mon histoire personnelle, sont les questions de lutte contre le dérèglement climatique. On ne peut pas, Nathalie le rappelait, on ne peut pas faire comme si nous ne savions pas que nous étions la dernière génération à pouvoir agir. On le sait, c'est une certitude scientifique absolue, après il sera trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi la première génération à avoir toutes les solutions entre les mains. On sait faire des maisons à énergie positive, on sait faire des voitures électriques, on sait faire de l'agriculture bio ou de qualité environnementale à grande échelle, on sait faire des énergies renouvelables moins chères, on sait tout faire. Simplement, il faut que les politiques changent d'échelle. Et s'il y a une échelle, un échelon où ces politiques peuvent changer d'échelle et avoir un impact massif, c'est bien évidemment l'Europe. Puisque à 500 millions, le premier marché du monde, la première économie du monde, on peut évidemment transformer les choses à grande échelle. Donc c'est là la mère des batailles. Et il faut la gagner, cette bataille, et c'est pour ça que je m'engage. Et puis ce qu'il y a dans cette liste, que je trouve vraiment très fort, c'est l'esprit de rassemblement, tu l'évoquais. Et il y a peut-être deux personnes qui, par leur histoire, incarnent particulièrement cet esprit de rassemblement, c'est Jérémy et moi-même. On a des histoires différentes, mais on porte le même projet. Et moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma formation politique ou dans ma vie politique, dans mon engagement, c'est Daniel Cohn-Bendit, qui disait « Je ne te demande pas d'où tu viens, je te demande où tu vas ». Et c'est précisément ça. Si on veut changer les choses, si on veut faire des majorités, si on veut transformer, il ne faut pas demander aux gens là d'où ils viennent et ils seraient figés à jamais là où ils étaient, mais où ils veulent aller ensemble. Et où on veut aller ensemble avec Jérémy, c'est 1. La défense de la politique agricole commune. Tu développeras bien évidemment ces sujets. Le maintien d'un budget et 3 priorités. 3 priorités. La première, c'est plus de revenus pour les agriculteurs. Aujourd'hui, vous le savez, un agriculteur sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté. Personne ne peut se satisfaire de cette situation. Et donc, on va mener ce combat pour plus de revenus pour les agriculteurs. On va mener ensemble ce combat aussi pour plus de protection contre certains accords de libre-échange qui menacent nos modes de production, nos labels, nos standards et nos choix de qualité de vie. Et c'est pour ça, et c'est une mesure très importante, que le président de la République a pris une position forte, c'était il y a une dizaine de jours, je crois, en étant le premier chef d'État au monde, a refusé d'engager des négociations commerciales avec notre meilleur allié dans cette campagne, Donald Trump, au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, en disant « Je ne peux pas ouvrir des négociations commerciales avec quelqu'un qui passe par pertes et profits la lutte contre le dérèglement climatique et l'accord de Paris. » Soit on joue le jeu de la coopération internationale, soit on joue le jeu du multilatéralisme, soit on ne le joue pas, mais ce n'est pas à la carte. Et le fait que Emmanuel Macron ait posé cet acte et dit « Non, je n'ouvre pas, je ne donne pas le mandat à la Commission européenne », c'est la première fois qu'un chef d'État le faisait. Et d'autres chefs d'État avant lui avaient envisagé de le faire. Nicolas Sarkozy avait dit qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. François Hollande avait dit qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. Emmanuel Macron avait dit qu'il le ferait et il l'a fait. Et ça, c'est très important. Et pour conclure, on va refaire quelque chose qu'on aime bien faire tous les deux. Parce que les photos, vous pouvez les prendre aussi ici. C'est que on est... On va faire un tour en plus aujourd'hui. Waouh ! Alors là, en plus, on fait le tour comme ça. C'est que depuis des décennies, les écologistes et les agriculteurs sont dans une sorte de guerre culturelle. Et on veut en sortir. On veut en sortir et on veut passer d'une opposition stérile à la construction d'un chemin crédible ensemble. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que ça, parce que c'est ça la démocratie, c'est ça la société dans laquelle on a envie de vivre. Et je te passe la parole, Jérémy. Ciao.
Bonsoir, bien sûr, à toutes et à tous. Je m'associe aux salutations de Nathalie pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, élus, parlementaires et autres. Et puis, bien sûr, chacune et chacun d'entre vous, je vous remercie de votre présence. Donc, je suis en terre connue, donc il y a nécessité à ce que je me trompe pas trop. Je vous avoue que ça a surpris bon nombre de personnes de me retrouver ou de me voir sur cette liste. Et ben, je suis convaincu encore ce soir, quand on voit les deux brillantes prestations de mes colistiers, que j'ai fait le bon choix. Voilà, au-delà du fait qu'ils me permettent de ne pas trop élargir le discours parce qu'ils ont déjà dit pas mal de choses, je trouve que voilà, il y a une volonté au-delà du rassemblement que nous formons, de l'union que nous formons, il y a une volonté aussi à laisser la parole finalement à tout le monde et à prendre le temps d'écouter. J'étais hier en meeting en Seine-Saint-Denis. Quand je leur ai dit que pour remplir un de leurs immeubles, il fallait deux fois la population de mon village, ça leur a déjà montré un petit peu d'où je venais et qu'est-ce que j'allais apporter. Et j'ai trouvé, et c'est ce que je retrouve dans cette liste, chez les gens que j'ai vus hier, une volonté d'écoute de la profession agricole, du monde agricole, une volonté aussi de connaître quelles étaient les pratiques et en quoi l'agriculture pourrait apporter quelque chose aussi finalement à l'ensemble des concitoyens. Donc voilà, j'ai plus besoin aujourd'hui de me poser la question de pourquoi je suis sur cette liste. J'y suis et j'y suis bien et je porterai haut et fort les valeurs du monde agricole, celles que j'ai portées en tant que président des jeunes agriculteurs. Et voilà, je pense qu'avec l'ensemble des composantes de cette liste, nous réussirons à faire en sorte de mener la France dans l'Europe a quelque chose de concret qui servira encore une fois l'ensemble de nos concitoyens. Je vais m'arrêter quelques minutes quand même sur l'agriculture pour compléter ce qu'a aussi très bien dit Pascal en disant que voilà, nous devons donner sens à la politique agricole commune qui a perdu finalement un peu ses repères et qui ne défend plus correctement les agriculteurs. Ça n'échappe à personne aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve le monde agricole et il y a nécessité à ce que nous retrouvions, et c'est ce que nous ferons avec cette liste et avec ceux qui la composent, que nous retrouvions au niveau européen un courage politique pour dire nous aussi on a une agriculture qui est capable à la fois de produire mais de répondre aussi aux attentes écologiques, aux attentes alimentaires, sanitairement parlant notamment, qui sont celles de notre société. Et nous l'avons parce que nous avons déjà travaillé sur un certain nombre de points, nous avons déjà fait évoluer beaucoup de choses en agriculture, et ce que ceux de notre liste ont compris, c'est qu'il fallait que ça se passe avec les agriculteurs, Nathalie l'a rappelé, d'accompagne et qu'on se repose sur ce qui avait déjà été fait. Nous avons déjà réduit en France la consommation et l'utilisation de pesticides. Donc nous sommes les mieux placés pour continuer encore, pour faire encore un effort, pour être encore les meilleurs et mettre en avant tout ça. Et nous devons le faire parce que ne nous l'agriculture française perdra encore des parts de marché et la possibilité que nous avons encore à répondre à l'ensemble des attentes sociétales ne sera plus là. Donc on doit, dans la politique agricole commune, redonner un sens, redécider à qui est-ce qu'on veut finalement donner les aides publiques. Donc ce serait bien qu'on les donne maintenant un peu plus souvent ou de manière un peu plus franche aux agriculteurs qui sont de vrais agriculteurs. Je l'avais dit à notre premier meeting, aujourd'hui, peut-être peut-être que certains ne le savent pas, mais la reine d'Angleterre, le prince de Monaco et d'autres personnes qui ne sont pas agriculteurs bénéficient d'aides publiques. Voilà un petit peu ce qu'il y a comme problème en Europe et voilà ce que nous allons essayer de régler. Donc je ne vais pas aller trop loin parce que l'idée, c'est quand même qu'il y a un échange entre vous et nous. Ce que nous allons faire ce soir, c'est tout simplement d'essayer de vous convaincre d'aller voter, même s'il y en a déjà beaucoup qui le sont, et puis parce qu'on va vous apporter tous les arguments nécessaires, et il y a de grandes chances que vous votiez pour nous le 26 mai. Voilà.
Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, on va commencer les séries de questions. Alors, la première question est toujours la plus difficile. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Monsieur, micro.
Merci. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Jérémy. Je suis un paysan, Jean-Pierre Duvigneau, un paysan immigré de Charolais en Haute-Unois. J'aime bien préciser que je suis un fils d'immigré, pour raisons économiques. J'étais syndicaliste avec le papa de Jérémy, ici en Saône-et-Loire, mais je suis de la génération qui a le plus pollué. Je suis né en 1951, donc on pollue beaucoup depuis 1950. J'ai pollué en tant qu'agriculteur sur mon exploitation. J'ai pollué en allant voir un petit peu les autres agriculteurs dans le monde. J'ai pris plusieurs fois l'avion. J'ai pollué avec mes vaches. C'est ce qui dérègle le plus le climat dans notre région. Et ça me pose de grosses questions par rapport à ma petite nièce, la petite fille de ma sœur. Elle a 3 ans, la petite. Et si dans 20 ans, elle dit « Le vieux tonton, il m'a pourri la vie », elle aura raison. Donc, j'ai pris conscience qu'il fallait que nous évoluions et que les générations suivantes évoluent. Qu'est-ce que la politique agricole commune peut apporter comme évolution ? Parce que c'est un outil fort. J'en ai beaucoup bénéficié de cette politique agricole commune. Qu'est-ce qu'elle peut améliorer ? Merci.
Comment ? Alors, une autre question. On va prendre une série de 3 questions. Une autre, monsieur.
Je voudrais juste faire une remarque constructive. Bon, je suis agriculteur à la retraite, mais bon, on peut en parler une autre fois. Je me suis engagé à distribuer ce tract-là. Et je suis un peu déçu parce que je ne retrouve pas le niveau de ce que vous avez dit. J'ai écouté Madame Bonino à la radio hier matin. Elle a... Il manque les choses importantes que vous avez dites qui dans ce voilà, c'est cette petite remarque pour donner envie d'y aller. Voilà, c'est tout. Merci.
Alors, une remarque, monsieur.
Merci. Oui, c'est une question que je voudrais poser à Madame Blazeau. Vous n'êtes pas sans ignorer que il y a un collectif d'intellectuels. Qui a fait une proposition de traité de démocratisation. Cette idée, en fait, part du fait que en Europe, le veto, le droit de veto, en tout cas l'unanimité, est incontestablement un frein continuel et extrêmement important. Ce traité de démocratisation propose une manière, sans toucher au traité, de détourner en fait, cette possibilité de veto en fait. Je voudrais savoir, bon, je suis conscient du fait de ce que ça veut dire, de ce que ça voudrait dire, c'est assez complexe à mettre en place. Ceci étant, c'est un projet qui est très amendable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous imaginez que ça puisse être une solution ? Sachant que cette idée, elle part du principe que c'est des pays qui choisissent. C'est comme si c'était effectivement une Europe à 2 vitesses. J'en suis tout à fait conscient, mais ça me semble être intéressant.
Alors, peut-être la réponse sur la PAC et puis les questions institutionnelles.
rapidement sur la politique agricole commune. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la politique agricole commune, pour jouer son rôle aussi dans le dérèglement climatique? C'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Ça peut finir par être compliqué, mais c'est assez simple sur le fait qu'il faudrait que, en gros, elle se fixe des objectifs de résultats et qu'elle gère la question écologique et environnementale d'une manière un peu plus pragmatique. Ce sera sans doute un mot que nous redirons beaucoup pendant cette campagne, mais le pragmatisme sur ces questions écologiques va être de mise aussi. Donc il faut que la politique agricole commune, et ça a déjà été rappelé plusieurs fois par Pascal Confin, puisse aussi, avec les différentes commissions du Parlement, notamment la commission environnement, puisse avoir une logique aussi de résultats. On a discuté avec des agriculteurs aujourd'hui qui nous parlaient des cours d'eau et de leur entretien, donc de l'entretien des rivières notamment. Tout bon paysan dans cette salle, mais je pense qu'il n'y a pas rien que les paysans qui le savent, on a su entretenir les cours d'eau. C'est facile, hein, pour que la rivière elle coule un peu mieux, de temps en temps, c'est pas mal ou c'est pas une bêtise, en tout cas, de piocher un peu dedans. Ma foi, maintenant, pour qu'un paysan puisse faire tout ça, il faut demander la permission à tout un tas de monde qui n'a jamais vu couler un cours d'eau, pour certains. Donc, voilà. Et c'est là-dessus où la politique agricole commune doit retrouver... C'est là-dessus où elle doit retrouver du sens. Voilà, avoir des objectifs de résultats où on fait un peu confiance à ceux qui travaillent la terre notamment, à ceux qui la cultivent, à ceux qui élèvent des animaux et qu'on leur donne quelques missions. Et si jamais la politique agricole commune peut aussi permettre, parce qu'on va maintenir un budget important, peut permettre d'accompagner financièrement aussi ceux qui font le boulot correctement, ce ne serait pas une bêtise.
Sur les questions démocratiques, là aussi, soyons pragmatiques. Tout ce qu'on peut faire à 28 aujourd'hui, à 27, à 28 demain, je suis désolée, j'ai plus de boule de cristal, là je ne sais plus vous dire combien on sera, pas plus de 28 avant un bon moment, et peut-être 27. Tout ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est bien, c'est mieux. Il y a d'ailleurs beaucoup de sujets sur lesquels maintenant les décisions sont prises à la majorité. Vous ne pensez pas qu'on aurait réussi à encadrer le statut des travailleurs étrangers détachés en Europe, si ça avait été à l'unanimité, on n'aurait pas bougé d'un petit doigt. On l'a fait à la majorité, simplement après, il faut convaincre, y compris ceux qui ont perdu, qu'ils n'ont pas tout à perdre, mais qu'ils ont aussi à gagner dans ce qu'on a fait. On vient de le faire sur le transport routier. Permettre à un chauffeur de camion, mettons polonais ou bulgare, de rentrer toutes les 4 semaines dans son pays d'origine, ce qu'il n'avait pas le droit de faire jusqu'à maintenant, c'est fait. Lui interdire de dormir en cabine, mais qu'il puisse dormir dans un vrai lit quand il travaille en Europe, ça y est, c'est fait. C'est passé à la majorité. C'est passé juste, mais c'est passé à la majorité. Donc il y a déjà la possibilité d'avancer à la majorité. Pas sur tout. Et le plus gros facteur bloquant, c'est les questions de fiscalité. Parce qu'évidemment, dans nos constructions démocratiques, le consentement à l'impôt, c'est ce qui a créé les parlements nationaux. Et donc on a une espèce de jalousie consistant à dire on décide chacun de nos impôts dans notre coin. À partir du moment où on a le même marché et pour un certain nombre d'entre nous la même monnaie, on se fait concurrence les uns et les autres à coup de dumping fiscal, à coup de paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Alors comment on fait pour surmonter ça? On peut essayer de changer les traités, c'est ni un objectif prioritaire mais ce n'est pas un tabou non plus. Si on peut y arriver, tant mieux. Et puis quand on n'y arrive pas, on fait ce que vous dites, c'est-à-dire que tous ceux qui ont envie d'avancer ensemble plus loin le font, n'obligent personne qui ne veut pas avancer ou qui n'est pas prêt à y aller. Cette Europe à deux vitesses, ce n'est pas une Europe avec une première et une deuxième classe. C'est une Europe où on respecte ceux qui ne sont pas prêts ou ceux dont l'opinion publique n'a pas envie d'y aller tout de suite, mais qui respecte aussi ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et ça, jusqu'à maintenant, ça a manqué trop souvent. Ça a été possible avec l'euro. On n'a forcé personne. Ça a été possible avec Schengen. On n'a forcé personne. Et tout le monde peut entrer à condition de remplir les conditions, à condition d'être sérieux. Et c'est quelque chose qu'on veut remettre à plat, y compris ceux qui sont dans Schengen aujourd'hui. S'ils ne respectent pas un principe qui consiste à contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne et à prendre leur part d'entraide quand il y a un afflux migratoire, nous, ça nous paraît difficile de leur dire bah, « Vous bénéficiez de la libre circulation alors que vous ne faites pas votre boulot et que vous n'êtes pas solidaire. » Ça, ce n'est pas possible. Ceci étant, je reviens sur les migrants, en 2015, l'Union européenne a été face à un afflux migratoire considérable. Elle a réagi dans l'urgence, comme elle a pu. Je ne critique pas, je n'y étais pas, et je pense que c'était très difficile de prendre des bonnes décisions à ce moment-là. Mais on a voulu forcer, par la majorité, des pays à accueillir des gens qui n'avaient pas envie d'y aller dans des pays qui ne voulaient pas les recevoir. Est-ce que ça a marché ? Non. Non, ça a échoué. Et ça ne pouvait qu'échouer. Et nous, on ne va pas s'acharner là-dessus. L'entraide, ça peut prendre tout un tas de formes, à condition que chacun marque une forme de bonne volonté. Et on va continuer. On l'a fait sur l'Europe de la défense. Pendant des décennies, on vous a dit l'Europe de la défense est très important. Pendant des décennies, vous n'en avez pas vu la couleur. Pour une raison que je rappelle quand même, dans les années 50, le pays qui avait dit non, c'était la France. Et avec notre arrogance habituelle, on ne s'est pas aperçu qu'on avait bloqué tout le monde. Quand nous, on dit non, c'est normal. Quand les autres disent non, c'est contrariant. Ça, il faut qu'on fasse un petit effort aussi pour comprendre ça. Mais on a repris le flambeau il y a 2 ans en disant, bon, l'Europe de la défense, avec mon ami Trump que je vous ai décrit, avec les Russes, avec le sud de la Méditerranée, peut-être que ça urge. On n'a forcé personne. On a dit, on va se mettre à coopérer entre nous parce qu'on préférerait avoir des matériels européens plutôt que chinois ou américains, parce qu'on préférerait savoir travailler ensemble que d'être incapable de le faire. Donc, que tous ceux qui veulent et qui peuvent le faire nous rejoignent. Quand on a commencé ça, on m'a dit, oui, bah, tu sais, ça va être sympa, vous serez 4 ou 5 et vous aurez l'air malin. Aujourd'hui, on est 25 sur 27. On n'a forcé personne. Les deux autres qui ne veulent pas venir, bah, après tout, c'est respectable. Mais 25, ça commence à peser et ça veut dire qu'on commence à faire des choses. Il faut qu'on ait la même logique sur tout un tas de sujets. On essaye tous ensemble. Chaque fois que ça passe, tant mieux, c'est mieux. Si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on va faire sur la taxation des géants du numérique ? Tout le monde en a envie. Tout le monde en a envie en Europe au niveau des peuples, au niveau des gouvernements. Il y en a 24 qui ont dit oui, 4 qui ont dit non. Ils étaient tout petits, mais il suffisait qu'ils disent non pour qu'on ne puisse pas la faire au niveau européen. Nous, on s'est dit on va la faire au niveau français parce qu'il y a une urgence là aussi. Plus on attend, plus c'est déséquilibré. Si on arrive à mettre fin à cette règle de l'unanimité fiscale, eh ben, on le fera tous à la majorité. Si on n'y arrive pas, il y en a 24 qui vont le faire ensemble. Et là, déjà, on est 6 au moment où je parle. Donc, ça commence et on va poursuivre dans cette direction. Donc, je rebondis et j'appuie ce que vous avez dit tout à l'heure.
Merci. Alors, on va reprendre une série de 3. Monsieur. Et après.
Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du micro.
Il n'y a besoin qu'il
Si quelqu'un a des questions à poser sur l'armée, je me tiens à leur disposition. J'ai mon fils qui était à l'état-major à N'Djamena. Il est rentré le 1er avril, après 6 mois, sans voir ses gosses, personne. Et je me tiens à leur disposition, mais l'armée, c'est comme confidentiel. Donc, ils ne peuvent pas tout dire. Mais on ne travaille pas qu'avec l'Europe. Hein. Il est dans un état-major, dans une caserne. J'ai pu entrer dedans. Il y a des drapeaux de... Je donne quelques exemples. De Géorgie, d'Ukraine. Je m'arrête là. Il est dans un état-major. Par moment, il est commandé par un Allemand. Au 14 juillet, c'est un Allemand qui était devant son état-major. Les Français, ils sont restés dans leur garnison. Ils ont mis plus les étrangers. Bon, moi, je m'arrête là. Hein. Non, mais s'il y a quelqu'un qui veut me poser des questions, oui.
D'accord. On note. Merci. Monsieur. Micro. Là.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Semanos. Je suis lituanien, un étudiant à Sciences Po. Du coup, un vrai Européen patriotique pour l'Europe, disons. Et j'ai une question. J'ai une question sur la migration et le climat. Parce que le climat, on ne va pas éviter les conséquences, ça va être impossible. Du coup, comment on va gérer les flux migratoires pour les migrants, parce que ça n'existe pas. Dublin, ça ne le définit pas. Le Temporary Act, directive, ça ne définit pas. La protection subsidiaire non plus. Du coup, il faut des législations nouvelles, des directives nouvelles pour résoudre ce problème qui va certainement venir. Merci.
Merci. On va prendre une dernière question. Monsieur, vous vouliez poser une question ?
Je suis originaire de Saône-et-Loire, ça fait 25 ans que je l'ai quitté, j'y reviens souvent. J'ai vu des agriculteurs qui étaient en grande difficulté en Saône-et-Loire, j'ai vécu dans le sud, j'ai vu des agriculteurs qui étaient en grande difficulté là-bas, j'ai vécu dans les Alpes du Sud. J'y ai aussi vu des agriculteurs en grande difficulté. Et depuis 2 ans, je suis dans le Doubs et je ne vois plus d'agriculteurs en grande difficulté. Alors, je m'interroge, comment se fait-il que dans le Doubs, les agriculteurs n'aient pas de difficulté ? Eh bien, la raison est toute simple, ils sont indépendants. Ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils transforment leurs produits et ils vendent à la coopérative, dont ils sont actionnaires, le lait à 60 centimes d'euros au lieu de 30 centimes ou 35 centimes ici. Je ne connais pas le cours exact, mais c'est de cet ordre-là. Vous voyez la différence. Donc la question que je pose aux candidats, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour que les agriculteurs puissent retrouver leur indépendance et sortir d'un schéma industriel où ils sont finalement asservis et forcément exploités.
Alors, dernière question, madame, et après les réponses. Là.
Bonjour, je m'appelle Gergana Stankoucheva, je suis d'origine bulgare, ça fait 12-13 ans que j'habite en France. Donc j'ai deux questions qui sont très différentes. J'ai une question plutôt pour madame Nathalie Lazo, qui concerne la corruption dans certains pays européens, et bah, notamment mon pays d'origine. Et comment vous pensez combattre cette corruption ? Parce que je ne pense pas qu'on puisse former une Union européenne forte avec de tels niveaux de corruption, notamment dans les pays de l'Est. Et ma deuxième question, c'est pour vous, monsieur Canfin, notamment concernant l'Union énergétique européenne, qui est une magnifique idée, qui malheureusement reste pour l'instant plutôt en théorie. Donc, comment vous croyez qu'on doit s'y prendre pour concrétiser cette belle idée d'une Union énergétique européenne qui va nous permettre de diminuer notre dépendance énergétique, de développer le marché de l'énergie au sein de l'Union européenne, mais aussi de protéger d'une certaine façon notre souveraineté européenne, si je puisse dire. Et quel est votre commentaire sur la construction de gazoduc Nord Stream 2 qui a déjà commencé, parce que je pense que mon avis personnel, c'est que ça puisse mettre en danger cette union énergétique. Merci beaucoup.
Alors, d'abord, je vous prie de m'en excuser, mais il y a une question à laquelle je n'avais pas répondu sur le vilain tract que vous aviez dans les mains. Il n'est pas terrible, on est d'accord. Le premier était pire, donc on progresse. Non, mais on va perler les annonces sur notre projet dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Et j'annonce ce soir, parce qu'on nous dit, mais votre projet, quand est-ce qu'il sort ? On a cherché pas mal de dates. Vous avez vu que la sortie du grand débat était quand même un sujet, que le drame de Notre-Dame avait un petit peu décalé les choses. Et puis, d'un seul coup, il y a une date qui nous est apparue assez intuitive. C'est le 9 mai. Donc, on sort notre programme complet le 9 mai. Et vous aurez, il sera, le bon à tirer a été signé, il est complet, il est même copieux, il est aussi assez joli, ce coup-ci c'est bon, et il va monter dans les camions bientôt. Pardon pour la trace carbone, mais par ailleurs on a décidé qu'on aurait une campagne neutre en carbone, ça sera une annonce qu'on fera bientôt. Monsieur, vous avez parlé de l'armée et vous avez parlé de votre fils, et je voudrais dire toute la reconnaissance qu'on doit avoir à ces jeunes qui luttent pour nous contre le terrorisme, contre le djihadisme au Sahel, dans des conditions extraordinairement difficiles. La bonne nouvelle, c'est qu'ils luttent de moins en moins seuls, vous l'avez dit, et que contrairement à ce qu'on a un peu à l'esprit, finalement, l'Europe de la défense, elle se fait en ce moment à bas bruit, mais c'est une bonne nouvelle. Au Mali, aujourd'hui, il y a des troupes allemandes. Alors, elles n'ont pas les mêmes règles d'engagement que nous, c'est vrai. Mais quand ils font de la formation, quand ils font de la logistique, ça libère des troupes pour nous. Mais il y a aussi des troupes estoniennes, ça on le sait moins, et eux, ils sont en troupes combattantes au Mali. C'était pas évident il y a 5 ans de ça. L'Estonie n'avait pas forcément totalement sur sa carte le fait que le Sahel était l'un des lieux où risquait de se développer encore la menace terroriste. Ils sont avec nous, mais c'est aussi parce que nous sommes avec les pays baltes, présents militairement, sous commandement de l'OTAN, régulièrement avec des troupes françaises. Ça veut dire qu'enfin, l'Europe regarde à 360 degrés et commence à penser la menace de la même manière et à s'entraider. Parfois, c'est bilatéral, parfois, c'est l'OTAN, parfois, c'est l'Union européenne. Il faut que ça soit de plus en plus souvent l'Union européenne, parce que c'est sur ces forces-là qu'on doit pouvoir compter. Mais il se passe quelque chose de différent qui fait qu'on n'est pas les gendarmes de l'Europe et de la paix seuls. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On veut aller plus loin dans cette direction. Alors, la corruption en Europe. D'abord, ne jamais se dire qu'il n'y en a que dans certains pays qu'on pointe du doigt. La corruption, partout où elle est, c'est une gangrène, c'est un cancer contre lequel on doit lutter pied à pied. Quand on parle de valeurs de l'Union européenne, certains se contentent de parler d'une civilisation européenne en regardant plutôt dans le rétroviseur et dans le passé. Moi, je voudrais regarder dans le présent et dans l'avenir. De quoi on a hérité ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? On n'a pas hérité d'un marché commun. Personne n'est jamais tombé amoureux d'un marché. C'est Jacques Delors qui le disait. On a hérité de valeurs communes. Les pays de l'Est qui nous ont rejoints, ils nous ont rejoints parce qu'ils voulaient sortir d'une emprise soviétique, d'un manque de liberté, d'un manque de démocratie et souvent de régimes abusifs. Alors il se trouve que parfois, ça revient subrepticement. Est-ce que le dire, le dénoncer et essayer de lutter contre, c'est faire de l'ingérence ou c'est simplement être à la hauteur de la promesse européenne de ce que nous voulons garder comme valeur ? Il me semble que c'est être à la hauteur. Et la corruption, quelque part, elle se retrouve forcément partout. Elle se retrouve, par exemple, puisque vous êtes bulgare, dans le fait qu'on ne sait pas aujourd'hui dans quelle mesure les gardes-frontières bulgares sont totalement insensibles à la corruption quand des passeurs, des trafiquants d'êtres humains veulent faire passer des migrants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la Bulgarie n'est pas dans Schengen, la Roumanie non plus. C'est ce qui fait que tous les ans, il y a un rapport qui est fait par l'Union européenne et que ce rapport dit que les choses non seulement ne s'améliorent pas, mais qu'elles empirent. Alors ces pays ne sont pas très contents d'être comme ça, sous inspection, mais c'est ce qu'il faut faire, pas pour les pointer du doigt, pour leur montrer le chemin qui reste à parcourir. Aujourd'hui, en Roumanie, il y a un vrai sujet sur l'indépendance de la justice. Là encore, s'en mêler, c'est pas aller regarder ce que font les autres et pas balayer devant notre porte. Il faut qu'on soit capable de balayer devant notre porte aussi. Mais c'est se dire que dans des pays où l'indépendance de la justice est attaquée, c'est vrai en Pologne, c'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Roumanie, sont des pays avec lesquels on ne peut plus faire de coopération judiciaire. On ne peut plus lutter contre la criminalité organisée. On ne peut plus lutter contre les trafics. On ne peut plus lutter contre le terrorisme parce que nos propres juges n'ont pas confiance dans les juges d'en face. Ça veut dire que d'un seul coup, on accepte que l'Europe s'affaiblisse. C'est pour ça qu'on a changé le discours de la France sur ces sujets-là. Pendant longtemps, c'était « je ne regarde pas, j'entends pas, je dis rien ». Et puis forcément, les dérives antidémocratiques, elles vont disparaître d'elles-mêmes parce que je n'aurais pas regardé. Mais elles n'ont fait que croître. Aujourd'hui, on travaille avec ces pays, on essaye d'aider tout ce qui se passe bien, on essaye de trouver des points d'accord à chaque fois que c'est nécessaire. On les convainc chaque fois qu'on peut, mais on combat les idées néfastes chaque fois qu'on doit. Et là aussi, l'Union européenne, si elle veut être respectée dans le monde, il faut qu'elle soit respectable à l'intérieur.
Moi, je voudrais commencer par revenir sur l'armée. Où est le monsieur ? Il est plus là. Il est là. J'ai été ministre du développement pendant 3 ans. Le développement, c'est les politiques de solidarité internationale. Et j'ai été au gouvernement lorsqu'on a décidé d'intervenir au Mali. Et vous évoquiez le Tchad dans votre expérience personnelle. Et j'ai vu effectivement plusieurs pays d'Afrique. J'ai vu effectivement, et c'est quelque chose dont on peut être fier, notre capacité à agir immédiatement face à la menace terroriste qui menaçait la stabilité du Mali avec des terroristes islamistes qui étaient sur le point de prendre le contrôle de Bamako et de prendre donc le contrôle du pays. On a été capable d'intervenir en franco-français, tout seul, en quelques jours, et de gagner cette bataille. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pays européens qui sont capables de le faire, et c'est notre responsabilité, on peut en être fiers. Ça, c'était il y a, c'était en 2013, sans doute, je crois, et donc c'était il y a 6 ans. Depuis 6 ans, on travaille à la fois sur la sécurisation et on travaille sur le développement du pays. Parce que si les communautés locales et les populations locales s'associent parfois aux groupes terroristes, c'est très rarement par idéologie, ça peut arriver, c'est très souvent purement par manque d'alternatives, parce que les groupes terroristes leur apportent des revenus. C'est le cas notamment autour du lac Tchad et du soutien de certaines populations à Boko Haram. Et là, tout ce qu'on fait, on ne le fait plus en franco-français, on le fait en franco-européen. On le fait avec les Allemands, on le fait avec les Anglais, on le fait, je pense qu'on continuera à le faire avec les Anglais d'ailleurs, on le fait avec les Espagnols, on le fait avec d'autres pays européens. Et nous n'aurions pas les moyens de faire tout seul à la fois la partie militaire et la partie développement. Et il faut être fier, et je vais faire le lien avec la question sur les migrants climatiques, il faut être fier que l'Union européenne soit le premier bailleur d'aide publique au monde. 1 dollar sur 2, ou 1 euro sur 2 transféré du nord vers le sud pour aider au développement des pays du sud et notamment des pays africains provient de l'Union européenne. Ça veut dire que sur les questions des migrants climatiques, le premier enjeu, c'est d'abord d'essayer de continuer à assurer le droit à vivre chez soi si on a envie de vivre chez soi. Le droit à la migration, il est fondamental, mais il est second. Le premier droit, c'est si j'ai envie de vivre au Mali, au Tchad, au Sénégal, au Cameroun, je dois pouvoir continuer à y vivre. Et c'est ce droit-là que le dérèglement climatique remet de plus en plus en cause. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, ce sont les statistiques qui viennent d'une organisation norvégienne, il y a d'ores et déjà, aujourd'hui, au moment où on parle, alors qu'on a 1 degré de réchauffement climatique et qu'on nous promet 3, 4, voire 5 degrés de réchauffement climatique, on a d'ores et déjà aujourd'hui plus de migrants climatiques que de migrants pour des causes de guerre. C'est déjà le cas. Mais attention aux fantasmes. L'immense majorité de ces migrants ne sont pas des migrants qui passent du sud au nord. L'immense majorité de ces migrants sont des migrants du sud au sud. C'est je passe d'un pays qui est déstabilisé par une sécheresse et j'ai évidemment pas les moyens de tenir 3 mois, 6 mois de sécheresse, donc je bouge. Je bouge dans mon pays et je bouge ensuite dans le pays voisin. Et donc, je ne pense pas qu'à court terme, en tout cas, il faille se faire peur avec l'idée d'avoir des flux migratoires de migrants climatiques massifs à nos frontières. En revanche, ça va déstabiliser, et ça a déjà commencé à déstabiliser, les pays du Sud. Et donc le premier enjeu, c'est de lutter contre le dérèglement climatique. Le deuxième enjeu, c'est d'aider les pays du Sud à s'adapter au dérèglement climatique. Et c'est là où l'aide publique au développement est fondamentale. Et comme nous avons 1 euro ou 1 dollar sur 2 dans le monde qui passe par l'Union européenne, on a évidemment une force de frappe centrale. Et c'est à nous, évidemment, d'assumer cette responsabilité. C'est une responsabilité éthique par rapport au fait que les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord nous, plus que les Africains. Je rappelle juste que la consommation d'électricité de toute l'Afrique subsaharienne, c'est légal, c'est équivalent à la consommation d'électricité de Manhattan. Donc, évidemment, notre responsabilité, elle est là. Mais c'est aussi notre intérêt. Là aussi, on peut faire du en même temps intelligent. C'est notre responsabilité et c'est notre intérêt. Parce que, évidemment, personne n'a intérêt à la déstabilisation de l'Afrique à cause de l'impact climatique. Donc c'est ça qu'on va porter dans les élections européennes, dans l'aide publique européenne et dans les politiques migratoires européennes, à savoir avoir un équilibre entre notre responsabilité, nos valeurs et nos intérêts et nos frontières. Et surtout, et on ne le fera jamais dans cette campagne, hystériser et instrumentaliser le débat. C'est trop sérieux, c'est trop important. Les gens qui meurent en Méditerranée, ils ne meurent pas parce qu'ils avaient envie de profiter de je ne sais quelle aide publique française. Ils sont en train de mourir, d'envoyer leurs enfants ou leurs femmes à la mort parce qu'ils veulent survivre. Et donc, on n'hystérisera pas ce débat. En revanche, on ne sera pas dans la naïveté disant « il n'y a qu'à Faucon, il suffit d'ouvrir les frontières, tout va bien, youplaboum ». Et c'est ce point d'équilibre entre les deux, serein, stable, crédible, efficace, qui sera l'ADN de notre vision sur les questions migratoires dans cette liste.
Alors, sur les questions des filières agricoles, et vous avez parlé, donc, pour que tout le monde comprenne bien, de la filière comté. Et j'arriverai à vous trouver quelques agriculteurs qui sont mécontents, même dans le Doubs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a effectivement... C'est un défi, je peux venir, on peut y aller ce soir, j'en trouverai. Je peux même vous en passer au téléphone. Je suis ancien syndicaliste et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore des appels d'agriculteurs du Doubs. Mais après, effectivement, c'est une filière qui a su s'organiser, qui a su surtout maîtriser le volume de production. Je pense qu'il y a ça se peut qu'il y ait quelques élus bressants dans cette salle. Il y a aujourd'hui plus de comtés en Bresse, ou presque plus. Il doit rester quelques agriculteurs encore, mais il ne s'installe plus de jeunes agriculteurs pouvant produire du lait destiné aux comtés. Parce qu'on a su, ils ont su dans cette filière-là, en évitant finalement la surproduction. Parce qu'il n'y avait pas la demande, ils ont conditionné le marché à une véritable demande, et du coup, ça permet aussi, en massifiant l'offre et en la rendant plus finalement pertinente, eh bien, ils arrivent à remonter le niveau de revenu des agriculteurs. C'est ce qu'on essaye de faire, ou c'est ce que, en tout cas, la profession avec l'État et les différents acteurs des filières ont essayé de faire dans les états généraux de l'alimentation. Ça doit porter ses fruits, l'idée étant de partir du coût de production des agriculteurs, des éleveurs. Plutôt que ce soit la grande distribution qui dise « nous, on va pouvoir vendre le bout de beefsteak à ce prix-là, le kilo de pain à ce prix-là, et puis on verra quel prix on demandera à l'industriel qui est avant l'agriculteur. » Et puis l'industriel, il arrive dans la cour de ferme, où il y a encore d'autres intermédiaires, il arrive dans la cour de ferme, puis il dit au paysan « nous, le distributeur, il nous l'achète ça, donc toi, on va te l'acheter ça. » Et puis le paysan, il a que ses yeux pour pleurer, il essaye tout le temps, parce que les agriculteurs sont quand même de fins négociateurs, ils essayent tout le temps de grappiller le bout de gras quand même, mais souvent le bout de gras est pas très très épais, et en élevage c'est quand même pas mal des fois quand le gras est épais. Donc il faut que nous réussissions à rendre efficaces ces états généraux de l'alimentation. Ça voudra dire aussi que nous devrons être un peu plus ferme avec les distributeurs qui ne jouent pas le jeu, avec les industriels qui ne jouent pas le jeu. Il y a encore tout un tas d'acteurs, malheureusement, dans les filières qui ont décidé de continuer, excusez-moi du propos, mais de serrer la gueule aux producteurs, et ça ne marche plus comme ça, ça ne marchera plus comme ça. Donc, De quoi ? Supprimer quoi ? Qui est-ce qui les a supprimés ? Mais tous les paysans ne pourront pas tout transformer non plus, et on ne pourra pas tout organiser de cette manière-là non plus, parce que nous ne pourrons pas nourrir tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas s'acheter non plus du comté. Donc il faut aussi des filières un peu plus industrialisées, mais que nous maîtrisons un peu mieux, et remettre des règles aussi à ce niveau-là. Donc les états généraux de l'alimentation en France doivent permettre de donner le ton, et au niveau européen, on doit bien sûr aussi organiser et mettre de l'argent dans la structuration de filières. Parce que ce qui s'est passé, parce qu'on est là quand même pour causer aussi Europe, ce qui s'est passé au niveau européen, c'est que nous avons décidé de libéraliser le marché agricole et alimentaire sans se protéger. Nous avons parlé, Pascal en a parlé tout à l'heure, de protection. Nous ne nous sommes pas protégés. On a dit on va essayer de concurrencer, de se battre avec les Américains. Ah, il n'y a pas plus libéraux que les Américains, mais le jour où ils protègent, ils se ferment, ils se mettent leur carapace et ils arrivent à faire leur marché comme ils peuvent. Et ils protègent aussi leur agriculture. Nous, on a eu la naïveté, je pense, en Europe, de penser que ça allait aller comme ça. Voilà. Donc maintenant, il faut revenir un peu en arrière et faire en sorte que l'Europe, si elle a décidé de se désintéresser un peu du marché et de le laisser faire, il faut malgré tout qu'elle mette de l'argent sur ses filières pour les développer. On peut parler aussi du bio. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans le bio est nécessaire ? C'est qu'on mette de l'argent sur les filières. C'est pas le tout de perfuser les agriculteurs qui sont en bio aujourd'hui en leur donnant des subventions. Il faut juste essayer de faire en sorte qu'il y ait de la valeur ajoutée qui redescende de leurs produits. Donc ça, nous devons le faire pour le bio, bien entendu, mais pour tout le reste de la filière, pour que nos concitoyens puissent avoir l'alimentation qu'ils méritent et qu'ils demandent. Mais pour ça, ça nécessitera aussi que les consommateurs deviennent consommateurs et donc agissent aussi un peu mieux. Aujourd'hui, malheureusement, pour certains, ça ne pose pas de problème d'acheter un smartphone à 1000 balles ou un robot de cuisine, par exemple, à 1000 balles. Mais par contre, de mettre un peu d'argent dans le steak ou dans les pommes de terre qu'on va mettre dans le robot de cuisine, ça fait des fois un peu moins frémir. Donc voilà, il faut qu'on réussisse à changer aussi ce paradigme. Et on aura besoin d'une connivence aussi entre les agriculteurs et les consommateurs.
Merci. Merci. Alors, on va reprendre une série de trois questions. Alors, de ce côté-là, monsieur. Tu veux poser une question ?
Bonjour. Alors, c'est une question à Jérémy de Serles. On a à peu près le même âge. On vient pas d'une région pas très lointaine, parce que je suis du Creusot. Et j'ai des amis qui sont soit plus jeunes, soit qui ont mon âge, qui sont agriculteurs ou qui sont de régions rurales, pas forcément du Creusot. Et je dois dire, ils votent pas forcément En Marche. Ils voteraient même peut-être plutôt Le Pen ou RN. Alors moi, quand j'ai vu votre nom sur la liste En Marche, en quatrième position, enfin sur la liste Renaissance, j'ai été surpris d'abord, mais très heureux. Parce que j'ai vu quelque chose de très positif pour le monde agricole et puis pour nous, qui ne sommes pas du monde agricole. Et je voulais savoir, vous, avec le peu de recul que vous avez là avec le début de campagne, comment dans votre entourage, dans le monde rural, dans le monde agricole, comment ça a été perçu votre présence sur cette liste? Et est-ce que vous pensez pouvoir faire changer ce mauvais réflexe qu'il y a parfois chez certains habitants, mais pas que les ruraux, hein, je ne vais pas caricaturer, il n'y a pas que qui votent Le Pen, mais dans le monde rural, de voter Le Pen par conservatisme ou par peut-être peur du changement, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez faire changer ça par votre présence et puis surtout par vos idées? Voilà.
Ouais, vas-y, réponds.
Non seulement je le pense, mais je pense même qu'on va réussir. Encore une fois, tout simplement, pourquoi je dis ça, ça s'est pas trop mal passé finalement dans le monde agricole. C'est déjà arrivé que des syndicalistes et des agriculteurs du coup rentrent en politique. Ça a été le cas pour le coup de mon père. Certains le connaissent dans cette salle ou l'ont connu en tout cas. Et finalement, pourquoi ça est plutôt bien passé? Parce que nous avons fait les choses proprement. J'ai tout simplement, voilà, avant de prendre ma décision, j'en ai parlé à mon bureau national, au bureau national des jeunes agriculteurs. Je leur ai expliqué la situation et nous nous sommes tous dit que ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir être représenté à l'Europe juste parce que moi j'aurais fait le choix de dire non, je laisse faire ça aux autres. Et donc voilà, donc déjà dans la profession agricole, c'est plutôt bien passé. Et pourquoi nous allons réussir à faire changer de nombreux paysans qui veulent se rapprocher du vote extrême? Tout simplement parce que les autres n'ont rien fait à l'Europe depuis qu'ils ont réussi à être un peu en tête quand même aux dernières élections. Ils n'ont rien fait. Ils ont tout le temps voté contre tout. Et aujourd'hui, la seule possibilité de sortir les agriculteurs ou de sortir l'agriculture de l'ornière dans laquelle elle se trouve, c'est finalement de voter pour nous déjà, parce que nous avons la ligne directrice la meilleure en matière d'agriculture, et parce que se refermer sur nous-mêmes, on a parlé beaucoup du Brexit, pas ici encore, et ça viendra peut-être, mais je vous garantis que dans mes fonctions précédentes, j'ai croisé quelques agriculteurs britanniques, eh ben, ils ne sont pas rassurés du tout. Et même si ça va coûter un peu à l'agriculture française, ceux qui vont le plus payer, c'est quand même les agriculteurs britanniques. Donc voilà, il faut qu'on explique aux paysans, et j'irai leur expliquer à chaque fois que j'en aurai l'occasion, que c'est, au-delà d'être une grosse bêtise, c'est un gros risque de se refermer sur nous-mêmes. Nous ne réussirons pas à sortir l'agriculture en restant dans notre pays, en ne se servant pas des alliés qui peuvent être les nôtres pour aller conquérir des marchés à l'export, parce que bien sûr, il faut nous protéger, bien sûr, il faut que nous alimentions correctement notre population en premier, mais il ne faut pas qu'on néglige aussi, pour la dynamique économique de l'ensemble de notre Europe, les marchés à l'export et qu'on surfe aussi sur nos atouts. Donc voilà, il faut expliquer aux paysans que sans de nombreux paysans qui sont fiers, libres et debout dans leur cour de ferme, ça ne fonctionnera pas. Et le repli sur soi-même, finalement, ça importe quoi ? La non-fierté, la non-sérénité, et puis le dégoût, finalement, de ce métier. Donc, pour relever les défis, il faut être fier, libre et debout, et c'est ce que nous porterons.
Monsieur, allez-y.
Mais à tous les trois, je voudrais vous poser, je vais vous souligner un petit exemple qui montre la complexité de la tâche qui est devant vous et vous montrer qu'on va voter pour vous, mais on va vous donner du boulot. Comme Hugo, je suis venu du Creusot par la Nationale 80, qu'on appelle la Route Express. C'est un ruban de camion ininterrompu. 1 sur 10 a une plaque d'immatriculation française. Les autres sont bulgares, lituaniens, portugais, espagnols, tchèques, lituaniens, etc., etc. Et les gars qui conduisent des camions, ils gagnent, je ne sais pas trop, mais c'est un peu un ordre d'idée, dans les 500-600 euros par mois. Et eux, ils vivent pas trop mal dans leur pays, on dit, je ne suis pas sûr non plus. Alors qu'un routier français qui va gagner 16-1800 euros, lui, il tire la langue et puis il n'a pas une vie bien terrible non plus. Alors vous avez souligné quelques progrès là-dessus et souligné la complexité des choses parce qu'on touche à l'écologie, on touche à l'agriculture, on touche aux lois sociales, on touche aux fiscalités. Notre sangle qui est devenu XPO, il a mis des tracteurs en Roumanie, etc., etc. Eh bien, là, il y a un écheveau à démêler et puis du temps à passer parce que le Lyon-Turin, le tunnel qui va peut-être nous permettre d'augmenter le pourcentage de fret par rail par rapport au fret par route, il est pas demain, c'est pas demain qu'il sera percé.
Peut-être la réponse tout de suite sur le dumping social.
Oui, ça marche, oui. Oui, ce que j'ai expliqué sur les transporteurs routiers, c'est une partie d'une pyramide qu'on est en train de bâtir. On a commencé sur les travailleurs étrangers détachés. C'est un souvenir fort pour moi. C'était il y a 2 ans quand je suis entrée au gouvernement. Emmanuel Macron a dit à Muriel Pénicaud et à moi, il faut que vous me changiez ce régime des travailleurs détachés. Il y a un projet de compromis dans l'Union européenne. Ça ne suffit pas, c'est nul. Vous allez leur dire, on renverse la table. Ça vous rend assez populaire. Vous arrivez, vous dites tout ce que vous avez fait depuis 2 ans, on n'en veut pas. Comme ça, les gens ont vu qu'on était arrivés. Et tout le monde nous a dit, mais c'est pas possible, n'essayez pas l'Europe sociale par le haut, ça n'a jamais existé, ça n'existerait pas, vous allez vous casser les dents, ça vous apprendra. Je ne me voyais pas revenir vers Emmanuel Macron et lui dire, j'ai pas essayé, c'est pas possible parce qu'on ne l'a pas fait avant. Donc avec Muriel Pénicaud, puis avec Emmanuel Macron, on a fait le tour complet de l'Europe. On est allé voir tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est les gouvernements, mais aussi les organisations syndicales, les patronats, les opinions, les organes de presse, pour dire... Est-ce que c'est normal que certains soient condamnés à être toujours les travailleurs de deuxième classe ? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut faire l'unité de l'Europe ? Ça a commencé à faire bouger les lignes. On a réussi à convaincre un nombre suffisant de partenaires, y compris à l'Est. La Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie nous ont dit d'accord, qu'on fixait un principe qui, après tout, était du bon sens, à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail. Ça va entrer en vigueur l'année prochaine. C'est long, c'est lent, c'est agaçant, c'est l'Europe. Et pourtant, à la vitesse de l'Europe, c'est la vitesse de la lumière. Ça, il faut qu'on arrive à améliorer ça, à être plus efficace, plus agile. Ce principe est posé, très bien. Alors évidemment, nos critiques nous ont dit, très bien, mais vous avez oublié les transporteurs routiers, vous n'avez pas fait le plus dur. On leur a dit, bougez pas, Là, c'est avec Elisabeth Borne, femme du gouvernement. Plus c'est compliqué, plus elles sont intéressées. On s'est dit, on va se coller le transport routier. Ce n'est pas un truc de fillette. Hein. Et je peux vous dire que les transporteurs routiers des pays de l'Est nous ont vu arriver en se disant, ce coup-ci, ils ne nous auront pas. Et on a continué la conversation sur est-ce que c'est normal de dormir dans sa cabine ? Est-ce que c'est normal de jamais pouvoir rentrer à domicile ? Oui, c'est bien d'être un peu mieux payé que la moyenne des gens dans son pays, mais ça fait concurrence aux gens dans notre pays. Sur le transport international, vous avez raison, c'est entre 80 et 90% du transport international en Europe qui est tenu par les pays de l'Est. Nous nous avons dit, on va déjà essayer de sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire la concurrence d'un point à un autre du territoire français. Je trouve qu'on est au centre de l'Europe, que les camions nous traversent et qu'à partir de là, il y en a beaucoup qui, au lieu de faire Madrid-Varsovie, ils faisaient Bayonne, Clermont-Ferrand, Dijon et en concurrençant en permanence les transporteurs français. Là, on a dit stop, halte au feu. S'ils veulent le faire, c'est vraiment aux mêmes conditions que les Français. Ce n'est pas interdit, mais ils veulent le faire quelques jours par mois. Après, ils rentrent dans leur pays. Et ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de contrôle qui permettent de le vérifier. Et ils le font aux conditions des Français. On y est arrivé, tout juste, ça vient tout juste d'être voté, ric-rac, y compris au Parlement européen. Il est temps qu'on y arrive parce qu'il a vraiment fallu compter vote à vote. C'est passé à 17 voix de majorité. Il a fait un petit peu chaud ce jour-là. C'est passé. Eh bien, ce n'est pas fini. Et on ne va pas se reposer sur nos lauriers en disant qu'on est les plus forts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que pour un travailleur étranger qui vient en France, ce soit à travail égal, coût égal pour l'employeur. Ça veut dire que les cotisations sociales doivent être au niveau du pays le plus généreux, c'est-à-dire nous. Pourquoi c'est nécessaire, on voit bien. Pour que les salariés français ne soient pas confrontés au risque soit de voir des entreprises qui délocalisent, soit de voir des travailleurs qui viennent leur faire concurrence. Et pourquoi c'est possible ? Parce que si on fixe ce principe et qu'on dit ces fameuses cotisations sociales élevées, elles sont payées par l'employeur, mais elles reviennent dans le pays d'origine, en Pologne, en Roumanie, ailleurs, et elles bénéficient à ce pays pour augmenter sa couverture sociale, je souhaite beaucoup de plaisir au gouvernement de ces pays de dire à leur population, il y a de l'argent qui vient pour augmenter votre couverture sociale, et nous, on a décidé qu'on n'en voulait pas. Là, il y a des gens qui vont dire, écoutez, travailleurs de deuxième classe, ça va un moment, maintenant on est européen depuis des années, on veut aussi voir notre protection s'améliorer. Donc c'est ça qu'on a à l'esprit, c'est ça qu'on porte, un bouclier social qui permette qu'on ait tous le même projet, la même ambition. On porte aussi l'idée d'un SMIC européen, alors il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites autour de ça. Quand on parle de convergence sur le SMIC européen, ce n'est pas pour faire baisser le SMIC français. Je ne me présente pas devant les électeurs français en leur disant « j'ai une super idée, on va baisser le SMIC ». Non, ça ne m'a pas effleuré. En revanche, me résigner, comme l'ont fait tous les partis qui sont au Parlement européen aujourd'hui, à ce qu'il y ait des SMIC aussi différents en Europe et à ce qu'il y ait des pays où il n'y a pas de SMIC, ça, je ne peux pas l'accepter. Là encore, on a le même marché, pour beaucoup, on a la même monnaie. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas se parler de nos salaires minimums. Tous les ans, on se parle de nos déficits, de nos finances publiques. J'allais dire, on fait un striptease collectif, mais quand on parle social, on se cache derrière notre petit doigt. Ce n'est pas possible. Qu'au moins les 6 pays qui n'ont pas de SMIC en aient un, qu'au moins ceux qui n'ont pas un SMIC décent disent quelle est la trajectoire qu'ils sont prêts à prendre pour l'augmenter. Alors évidemment, le SMIC bulgare ne va pas devenir le SMIC luxembourgeois demain. 300 euros d'un côté, 2000 de l'autre, c'est loin. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On se croise les bras, on dit on ne fait rien. Où on crée une dynamique. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer une vraie dynamique. Et aujourd'hui, c'est possible parce qu'à l'Est, il y a beaucoup de pays qui sont proches du plein emploi, qui ont perdu de la main-d'œuvre parce qu'ils sont tellement idéaux, ces pays, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui en sont partis et qui n'ont pas eu envie d'y revenir. Et donc aujourd'hui, ces pays, ils ont besoin de monter les salaires, ils ont besoin de monter la protection sociale. C'est le moment où on dit, ben, on est là, on est au rendez-vous et on va accompagner ça. Alors, vous avez parlé du Lyon-Turin. C'est un bon exemple d'un beau projet européen. Parce que c'est à la fois un traité bilatéral franco-italien et un projet qui est largement soutenu par l'Union européenne. On est incapable de le faire sans l'argent de l'Union européenne. En gros, c'est 40% au financement européen, 40% financement italien, 30% financement français. On en a besoin et il y a de l'argent européen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Lyon-Turin ? Il se passe que les Italiens, pour tout un tas de raisons très légitimes de mécontentement après la crise financière, de sentiment d'abandon dans la crise migratoire, ont confié les clés de leur pays à deux partis qui ne sont d'accord sur rien. L'extrême droite et les populistes des 5 étoiles. Ces deux partis ne sont d'accord sur rien. Le pays va mal, le pays est en récession, les finances publiques se cassent la figure, et d'un seul coup, ils s'aperçoivent que sur le Lyon-Turin, c'est compliqué. Et en plus, les 5 étoiles avaient toujours dit qu'ils ne voulaient pas du Lyon-Turin. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Ben, on voit ce que c'est que les limites du populisme, de solutions simples pendant une campagne électorale, puis on ne sait plus décider maintenant. Alors comme d'habitude, quand en Italie, ils ne sont pas d'accord, ils disent c'est la faute de la France, et la France n'a qu'à plus payer. Maintenant, eux, il faut qu'ils se décident, il faut qu'ils se décident vite, parce que sinon l'argent européen sera perdu. Et en effet, on continuera à avoir des camions qui polluent, qui abîment la qualité de l'air, en particulier dans toute la région des Alpes. On a besoin de ce Lyon-Turin, on va tout faire pour y arriver. C'est vrai que c'est plus difficile quand ceux qui ont des formules simples n'ont finalement pas de solution européenne derrière.
Merci. Allez-y.
Bonsoir, merci beaucoup à nos trois colistiers. La première chose, c'est simplement une petite remarque, vous dire que vous n'êtes pas non seulement des Européens convaincus, mais surtout des Européens convaincants. Et vous l'avez montré aujourd'hui, et merci. Je suis espagnole d'origine. La France, elle m'a donné énormément d'opportunités. J'ai passé mes diplômes ici lorsqu'il n'y avait pas les opportunités qu'il y a maintenant. Il faut vraiment, vraiment lutter pour ne pas revenir en arrière, pour qu'il y ait une équivalence des diplômes comme celle que je n'ai pas pu avoir lorsqu'il a fallu refaire mes diplômes ici. Et maintenant, je voudrais simplement, sur les deux derniers points que vous avez que ça va être traité. Moi, qui viens d'un pays du Sud, je suis espagnole d'origine, quelle est vraiment la politique européenne face aux frontières extérieures? Parce que la montée des populismes dans le Sud de l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, avec ce qu'on a vu récemment, elle est en grande partie une réponse des peurs d'une certaine partie de la population qui se sent démunie face au flux migratoire. Et ces flux migratoires, évidemment, il faut qu'ils soient une réponse européenne. Et concernant les transports des marchandises, on parle évidemment de faire une Europe beaucoup plus sociale. Évidemment, c'est le grand défi, c'est faire l'Europe non seulement du marché, mais une Europe sociale. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas viser plutôt une nouvelle conception du transport dans laquelle je ne dis pas qu'il ne faut pas gérer évidemment les transports par les transports de nos camions, mais surtout essayer de développer les transports par la voie ferrée, qui c'est les grands défis écologiques aussi. Merci beaucoup.
Merci. Alors, on va reprendre, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Monsieur, c'est après les candidats vont reprendre leur train.
Alors, bonjour, je suis étudiant et j'ai une question concernant votre liste. Vous avez dit que vous n'allez pas faire de coalition et je me demandais si vous allez faire une alliance avec d'autres partis en Europe et aussi dans quel groupe vous allez siéger. Et après, j'ai une autre remarque aussi concernant le réchauffement climatique. Vous avez parlé tout à l'heure du traité, le TAFTA avec les États-Unis, comme quoi Emmanuel Macron n'était pas d'accord avec. Mais avant sa campagne 2017, il disait qu'il était pour le CETA et pour le TAFTA. Et récemment, le GEFTA avec le Japon, il est passé. Et je voulais savoir quel était le positionnement de la liste, de votre liste, justement, sur les traités qu'il y a avec les autres pays. Voilà, c'est tout.
Alors, encore une dernière question. Dernière question. Vous voulez répondre tout de suite sur l'accord?
Alors, je vais répondre sur... où est-ce qu'on atterrit au Parlement européen? Merci, bonne question. Vous avez envie de savoir à quoi on va jouer. On veut créer un groupe central. Ce qu'on a rassemblé sur notre liste, c'est-à-dire, allez, on va faire un petit peu de pub, quoi. Au-delà de la majorité présidentielle de 2017, vous connaissez beaucoup de cas où, 2 ans après l'élection présidentielle et les élections législatives, et dans un contexte politique et social qui n'est peut-être pas le plus simple qu'a connu notre pays depuis quelques années, la majorité présidentielle, au lieu de s'affaiblir, s'élargit. Ben, c'est ce qui se passe avec cette liste. C'est ce qui se passe avec le fait que Agir, que les radicaux nous ont rejoints, qu'un certain nombre d'élus qui n'étaient pas ni En Marche ni Modem au départ ont décidé de soutenir cette liste. Et il y a des présences ce soir qui me font plaisir, qui montrent qu'il y a une belle dynamique. On veut créer une dynamique au Parlement européen, être centraux et incontournables avec ceux qui, comme nous, sont des Européens convaincus et exigeants, qui veulent demander plus à l'Europe, qui partagent notre ambition, qui partagent nos valeurs. Certains siègent aujourd'hui au sein du groupe des libéraux et des démocrates, groupe centriste au Parlement européen, qui jusqu'à maintenant était le quatrième groupe, intéressant, pas très puissant. Il y a des gens avec lesquels on est d'accord dedans, d'autres avec lesquels on est moins d'accord. Et puis il y a des gens à l'extérieur de ce groupe qui ont envie de nous rejoindre. Ce n'est pas complètement un hasard s'il y a dans notre liste l'ancien ministre italien des Affaires européennes qui vient du Parti démocrate italien. Ce n'est pas complètement un hasard aussi s'il y a des écologistes qui avaient siégé sous une autre étiquette avant, qui sont maintenant sur la liste Renaissance. Donc c'est cette ambition-là qu'on porte. Ça sera un nouveau groupe. C'est très intéressant parce que dans chacun des débats que j'ai faits, il y a quelqu'un qui dit toujours « c'est pas possible, faire de la nouveauté, ça n'existe pas ». Et c'est Yannick Jadot. Et c'est curieux de porter une ambition en disant que c'est pas possible de faire des choses nouvelles. Moi, j'ai pas le sentiment qu'en 2017, Emmanuel Macron, il était attendu comme quelqu'un de naturel en France. Et pourtant, il a été élu président de la République et derrière, il s'appuie sur une majorité large à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'avec des défis nouveaux, avec des besoins nouveaux, on ne créerait pas une dynamique nouvelle ? Nous, c'est vraiment ça qu'on a envie de porter. Alors ensuite, sur les questions migratoires, nous, notre conviction, c'est que nous voulons protéger nos frontières et nos valeurs. Nos valeurs, quand quelqu'un fuit la persécution, quand quelqu'un se réfugie parce que dans son pays, il y a la guerre, nous devons l'accueillir et nous devons l'accueillir mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Le droit d'asile, il a été inventé au XXe siècle parce que l'Europe a vu arriver les Arméniens rescapés du génocide et les Russes qui fuyaient la révolution de 1917. C'est ça qui a créé le droit d'asile. On va le déchirer ? On va le jeter à la poubelle ? Sûrement pas. On va décider que le droit international de la mer, qui veut qu'un bateau naufragé soit... on lui vienne en aide et qu'on l'accueille dans le port sûr le plus proche... On va décider que ça n'existe plus, qu'on s'en lave les mains. Quand les gens sont en train de mourir, notre devoir, c'est de les sauver. Ensuite, nulle part au monde, on entre si on n'est pas invité. C'est comme chez vous. Normalement, on frappe à la porte et le type qui rentre par la fenêtre alors que vous n'avez pas ouvert, bah vous lui montrez la sortie. On ne peut pas décider à notre place qui vient en Europe pour des raisons qui consiste à chercher un meilleur avenir, des raisons qui sont louables, mais ça ne peut pas être les passeurs et les trafiquants d'êtres humains qui décident qui arrive en Europe. Or, en ce moment, c'est encore un peu le cas. Ça l'est moins que ça ne l'a été. S'agissant de l'Italie, on a divisé par 10 le nombre d'arrivées en Méditerranée centrale, mais ce n'est pas un hasard, madame, si c'est vous qui posez la question. En ce moment, la route la plus empruntée, c'est celle qui passe par l'Espagne. Ce que nous avons à faire, c'est de renforcer le contrôle de nos frontières extérieures. On a créé Schengen en abattant les frontières intérieures, et ça a été une grande richesse pour les entreprises, pour les personnes, pour les produits agricoles qu'on peut exporter. Et quand j'entends certains dire « on se referme sur soi », qu'ils aillent dire ça à des producteurs de vin de Bourgogne, je pense qu'ils auront beaucoup de succès à entendre qu'on va négocier tout seul nos accords commerciaux avec nos petits bras de Français, et puis... On va évidemment fixer nos conditions face à des grands pays qui ne demandent que ça. Alors ça, vous êtes tranquille, les États-Unis, la Chine ne demandent que ça, qu'on s'affaiblisse. Donc on ne va pas fermer nos frontières intérieures, mais il est plus que temps de renforcer nos frontières extérieures. Ceux qui vous disent que c'est ceinture et bretelles, on fait les deux, mais il y a plus de deux fois le kilométrage de frontières intérieures en Europe que de frontières extérieures. Ça veut dire qu'il faudrait un monde fou, des moyens incroyable pour quelque chose qui n'aurait pas de sens. Renforcer nos frontières extérieures, ça veut dire avoir une agence européenne de police, une police européenne des frontières, qui vienne en aide aux polices nationales. Aujourd'hui, il y a 600 hommes. On ne peut pas lui faire le reproche de l'inefficacité à 600 C'est assez compliqué. Pourtant, ils font déjà des choses pas mal. Contre la drogue, contre les armes et parfois contre les trafics de migrants. On a proposé qu'il soit 10 000. Ça vient d'être voté au Parlement européen. Est-ce qu'on a gagné ? Non. Parce que c'était un compromis boiteux qui ont dit on fait ça en 2027. On a évidemment le temps d'attendre 2027. Donc on va y revenir. Contrôler nos frontières extérieures, c'est aussi demander à chaque pays de prendre ses responsabilités. Et s'il ne les prend pas, il ne bénéficie plus de la liberté de circulation. Mais toujours, toujours, y compris quand il faut reconduire des migrants illégaux dans leur pays d'origine, le faire avec dignité, en respectant nos valeurs, en respectant le droit international, en respectant les droits de l'homme. Une partie de nos opposants ont raconté n'importe quoi sur le pacte de Marrakech en disant « il y a des millions de migrants qui vont arriver en Europe ». C'était évidemment pas l'idée. L'idée de ce pacte, c'était de dire qu'on ne peut traiter les migrations qu'en coopérant entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. Ça tombe sous le sens. Ce qui a choqué nos opposants, c'est que ce pacte disait qu'il fallait le faire en respectant les droits de l'homme. Ben moi, je l'assume. Et je pense qu'en tant que Français, si on n'est pas capable de dire qu'une politique migratoire, aussi efficace soit-elle, doit toujours rester humaine, à ce moment-là, on porte atteinte à notre fameuse identité. Et je ne veux pas que l'Europe nous fasse reculer sur notre identité. Je vais terminer là, parce qu'effectivement, il y a un train à prendre, qu'il est un peu tard, que vous avez peut-être un peu chaud. Je voulais terminer, évidemment, en vous remerciant pour vos interventions, en remerciant les élus qui sont là, les colistiers qui sont là. J'aurais envie de les appeler à se lever et à venir à côté de moi. Pascal, Jérémy, Raphaël, François, Dominique, si tu veux, Benjamin, ceux qui sont là. Et alors, juste un dernier mot. Non, je ne vais pas y arriver. Non, tant pis, c'est foutu. Je rappelle quand même, le 26 mai, il n'y a qu'un tour. Le 26 mai, il n'y a qu'un tour. Et ceux qui ne sont pas allés voter en 2014, parce qu'il y a 60% des Français qui n'ont pas voté, c'était résigné à ce que le Front National soit le premier parti de France. Cette fois-ci, il n'y a aucune résignation à avoir. Il y a un espoir, il y a une renaissance. Merci.